Bonjour Boyana.
Bonjour Mélissa, ça me fait très plaisir que tu sois là avec ton micro tout poilu. Il fait référence à mon expo fait référence à lui.
En effet, les fibres textiles sont une constante dans ton travail. J'invente rien en disant ça.
Rien du tout. Oui.
Donc là, on est au passage Chabrier à Saint-Pierre-des-Corps, donc c'est un espace qui est quand même assez grand. Et voilà, est-ce que tu veux nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'on va voir dans cette expo?
Alors, dans cette exposition-là, sa genèse, elle est assez rigolote. Elle a commencé par Julien Guinebaud, qui est venu à l'époque où j'avais encore l'atelier à la Morinerie, et qui m'a dit « Et si on faisait une exposition? » Allez, on fait une exposition. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir exposer? Parce que la salle est toute neuve, elle avait brûlé pendant les émeutes, donc là, elle a retrouvé une splendeur qu'elle n'a pas eue depuis très très longtemps. Et là, au cours de cette conversation, on a dit, allez, je vais appeler l'expo Habiter, jouer, vivre, mais Habiter, jouer, vivre, point d'exclamation, comme une revendication des droits les plus fondamentaux dans lesquels on commence à se perdre par les temps qui courent. Et je me suis dit que j'allais réfléchir à une interprétation de jeu d'enfant parce que j'ai envie de revendiquer la joie comme ultime forme de résistance. Cette joie qu'on éprouvait enfant quand, ou avec trois cartons et cinq bouts de bâton, on construisait le plus merveilleux de château. Et puis du coup, je me suis appuyée sur des choses qui sont en ébullition permanente dans ma tête en termes de réflexion, que ce soit l'architecture, l'écologie, ce qui est être femme de nos jours, le patrimoine génétique universel. Et puis j'ai mis ça, j'ai essayé de mettre ça en rapport avec le jeu, et puis ça a donné, voilà, ces formes, ma foi, assez cubiques, tout en fibres, mais qui sont des interprétations des dés, des paysages, qu'ils soient maritimes ou terrestres, qui sont des interprétations aussi des architectures des populations nomades. Pour les robes qui sont recouvertes de mousse, l'inspiration était le kepenek, qui est un vêtement traditionnel des bergers du plateau de Monotoli, qui leur sert de tente et de manteau, et qui est fait en feutre très épais. Donc je me suis dit, tiens, en format tiny house, c'est la plus petite des tiny houses qui puisse exister. Et puis, elle est faite de fibres, elle est pliable et elle est multifonction. Donc, il y a eu plein de références comme ça qui sont rentrées dans le processus idéique de l'élaboration de l'exposition. Mais voilà, le jeu, il était la référence principale et comment amener un même adulte jouer, voilà, à travers ces interprétations des cabanes où un adulte passe facilement, où il peut se cacher. Et voilà.
Donc là, c'est une nouvelle galerie Chabrier, la passage Chabrier. Il y a quatre compartiments, si on peut
Oui.
dire. Alors, comment on joue avec ces espaces? Comment on répartit les œuvres dedans
Les quatre espaces sont en même temps une espèce de grand couloir, dans le sens où, quand tu es de chacun des espaces, tu vois tous les espaces. Et ça a été, bien sûr, comme tous les espaces d'exposition, il a défini aussi la façon dont j'ai accroché, il a conditionné, mais pas défini, mais conditionné l'installation des œuvres d'une certaine façon, parce qu'il ne faut pas obstruer cette respiration qu'on peut avoir Parce qu'en fait, je pense qu'on a 200-300 mètres carrés qui sont quatre espaces, certes, mais qui ont une respiration commune et un accès visuel de l'ensemble. Puis ça s'est fait plus ou moins par thème et couleur. Et ça dialogue assez bien, je trouve.
Donc il y a une...
Il y a une espèce de salle bleue, il y a une espèce de salle rouge ou grise, et grise, il y a une espèce de salle verte, et après il va y avoir une espèce de salle végétale qui va être verte aussi, mais on traverse les paysages, quelle que soit la couleur.
Voilà.
Les paysages et les jeux.
Le paysage et le jeu. Et alors là, dans la première salle, sur Habiter, Jouer, Vivre, donc c'est une bannière, c'est une... comme dans les manifs.
Oui, tout à fait. On m'avait demandé, je ne sais même plus comment ça s'appelle, d'habitude, on fait imprimer sur des autocollants le titre de l'exposition, puis le nom de l'artiste. Et moi, j'ai trouvé ça très plan-plan. Et j'ai dit, et tiens, si, puisqu'on est dans la revendication de la joie, avec une banderole « Habiter, jouer, vivre » qui s'appelle « Parole de Luison », qui est l'enfant d'une amie avec qui on a travaillé là-dessus. Je me suis dit, ben, on va faire une banderole de manif, puisqu'on revendique les choses. Donc la seule chose qui manque sur cette banderole et qui sera introduite dans les jours qui suivent, c'est un petit signal « Culture en lutte ». Mais je n'ai pas trouvé intéressant à ce que mon nom et prénom y figurent. De toute façon, les gens qui vont venir, ils sont au courant. C'est une exposition monographique, on ne peut pas se perdre. Mais c'est une pièce qu'on peut effectivement sortir dans la rue par la suite.
Après ce travail là, sur des lettres en tissu qui sont cousues sur une banderole, ça fait écho aussi peut-être à un atelier que tu as pu faire avec des femmes. Je trouve que ça ressemble à des banderoles, des
tout
bannières.
À fait.
Est-ce que tu veux nous raconter cet atelier?
Alors, maintenant, il faut que je me rappelle un peu. Deux amis de la Morinerie ont mené un projet qui s'appelait « Mémoire sensible » sur le quartier de la Rabatterie. Et dans le cadre de ce projet-là, je suis intervenue pendant une semaine dans l'ancien centre social à travailler avec des femmes qui fréquentaient ce centre social. Et puis, nous avons le projet, dans le fond, était d'investir des bâtiments du quartier de la Rabatterie qui vont être détruits et qui sont inoccupés depuis très longtemps et qui, en perdant de leur occupation, symbolisaient aussi une mise à l'écart et du quartier et de la vie qui pouvait y être. Et du coup, avec les femmes, on s'était dit qu'à la place de faire du graffiti et taguer à la bombe, etc., etc., ben on allait faire des tags avec du textile. Et puis, nous avons passé une semaine à imaginer des paysages et ce qu'on voulait dire par le textile pour aller les coller par la suite sur des rideaux de fer qui sont tous baissés dans le quartier. Je suis passée il y a 2 jours... Tout a été arraché, ça me fait mal au cœur un an plus tard. Mais bon, c'est... On a bien travaillé ensemble et on était heureuse de travailler ensemble. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler. Mais moi, ça m'a donné envie de continuer ce travail. Il y a 2 types d'interventions que j'aimerais continuer. Le travail dans les hôpitaux psychiatriques, puis aussi les tags en tissu, les tags doux, les tags contre lesquels on peut s'appuyer et recevoir de la douceur dans les endroits les plus froids et plus abandonnés de la ville. Voilà.
Ils ressemblaient à quoi alors ces tags qu'on ne verra pas sur les rideaux de fer?
Oh oui. C'était du tissage de paysage, c'était leur idée de paysage, leur idée de couleur, leur idée de ce qu'elles voudraient voir, je leur ai laissé libre cours. J'intervenais juste en support technique. Alors, c'est assez difficile pour les adultes, de façon générale, de se retrouver face à cette espèce de liberté créatrice d'un seul coup. La première question qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et quand on leur répond « ce que vous voulez », c'est « mais je me suis rendu compte que c'est assez complexe pour la plupart des adultes et même pour la plupart des enfants, malheureusement. Puis c'est un travail qui s'est fait, qui a commencé donc par de la parole, le partage d'expériences, le partage du vécu, le partage des idées, qui fait quoi dans la vie ? Juste faire connaissance, tout simplement, pour aboutir à des représentations diverses et variées de ce qu'elle voulait faire. Puis petit à petit, en discutant, en se rendant compte des sujets qui peuvent provoquer de la colère, on a utilisé aussi cette colère pour la formaliser dans quelque chose d'assez coloré et d'assez joyeux et qui peut exprimer pour certaines cette colère-là, mais d'une façon relativement drôle. Donc, et ça a été une très belle expérience, une expérience que je renouvellerai bien à un moment donné.
Alors, comment on fait quand on a des adultes qui disent « Ah, mais moi, de toute façon, j'ai rien à dire. »
Bah, on commence à parler. Je veux dire, si de toute façon, la pudeur fait que s'ouvrir à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas comme ça d'emblée, c'est pas une chose aisée pour tout le monde. Du coup, pour aboutir à une espèce de partage et à l'ouverture de l'autre, il faut commencer par s'ouvrir soi. Alors là où mon état d'immigré me facilite les choses, parce que j'ai un accent. Du coup, quand c'est assez facile de commencer des histoires me concernant, raconter mon histoire, parce qu'effectivement, dès que je commence à parler, on ne se rend pas compte que je ne suis pas d'ici. Et à partir du moment où on partage son histoire, il y a des mots, des fois, qui déclenchent des envies ou des certaines expériences qui vont se révéler déclencheurs chez des personnes qui sont autour et qui vont commencer à partager elles aussi. Et si on fait des choses pendant ce temps de partage, on peut effectivement construire une base qui peut aboutir à des créations par la suite. Et le tissu là-dedans est un support rêvé parce que c'est banal. La plupart des adultes ont été frustrés par l'école ou par les cours d'art plastique où on leur a dit qu'ils ne savaient pas dessiner, qu'ils ne savaient pas peindre. De toute façon, l'art, c'est que la peinture est l'art, la peinture est le dessin, et puis et qu'ils n'ont pas d'imagination, et qu'ils n'ont pas ceci, et qu'ils sont nuls. Et du coup, quand on leur présente le textile, que pour certains et pour certaines formes de pratique, c'est encore un truc de mémé un peu, tu vois, le tricot, le crochet, mais ça pas la tête. Ou la couture. C'est pas quelque chose que leur est inconnu. C'est pas quelque chose qui les effraie. Parce que c'est pas quelque chose où ils s'attendent à des résultats de compète. Et du coup, dans cette espèce de démarche, on peut aboutir à des résultats très, très, très intéressants. Genre, voilà, à la place de faire un pull, fais des lignes. Tu fais 3 écharpes. Et avec ces écharpes-là, en fait, tu vas te dire que ce sont des lignes des couleurs. Et qu'avec ces lignes-là, tu peux dessiner ou peindre. Le feutre, il est encore plus... il est encore plus... il est encore plus facile pour amener les gens. Parce qu'ils se retrouvent avec un tas de poils et ils les regardent comme ça. Mais bien sûr, on va faire de l'art avec ça. Et puis, la douceur de la fibre, la douceur de la matière, c'est quelque chose de rassurant. Les amène petit à petit à travers la technique. Réveille la curiosité, réveille aussi besoin d'essayer autre chose. Et puis ces besoins et ces nécessités-là se transforment en émerveillement. Parce qu'effectivement, avec un tas de poils, les possibilités de création sont infinies. Avec un tas de poils, de l'eau chaude et du savon, tout simplement. Et ça les amène. Et ce que je retrouve souvent dans ces moments-là, ce sont « Mais ça tient !» Tu vois, il y a une espèce de pétillement enfantin. Tu revois les enfants qui ont été tous ces adultes-là et qui sont émerveillés face à une réaction chimique et mécanique toute bête qui a fait que une espèce de masse très légère et informe s'est transformée en quelque chose de concret qui tient et qui a du sens.
Mais comment toi tu as rencontré, disons, cette matière-là ?
Alors, j'ai rencontré cette matière-là par le plus simple des hasards. Y a une copine qui m'a vu tricoter et qui me dit « Oh, toi, tu connais le feutre ?» Je lui dis « De quoi ? Les feutres pour dessiner ?»« Non, mais tu sais, chez vous, dans les pays de l'Est, la technique, la tradition de travail, je la regardais toujours très blanc, parce que dans mon pays de l'Est, il était communiste à l'époque où je suis née, donc les traditions n'existaient plus. Et elle m'a amenée chez une collègue à elle, qui était costumière, qui l'est peut-être encore, au Grand Théâtre, et qui pratiquait le feutre. Et on a passé une après-midi fine d'initiation au feutre. Et puis pour moi, c'était une révélation. Parce que le principe de fonctionnement, c'est un principe tout bête. Tu as des fibres, de l'eau chaude et du savon. Et à partir de ces ingrédients-là, tout est possible. Mais littéralement, tout. Tu peux faire des meubles, tu peux faire des choses très fines, tu peux faire des volumes, tu peux faire du plat, tu peux mélanger les couleurs. Tu peux introduire la lumière en intégrant d'autres fibres, mais on n'a pas assez d'une vie d'expérimenter. Et c'est quelque chose qui correspond assez à mon tempérament, parce que je m'ennuie très vite. Et le fait de savoir que je peux pousser encore plus loin et essayer de nouvelles choses avec ce principe d'assemblage, en fait, ça me correspond.
C'est reproductible à l'infini. On peut réutiliser, on peut refaire.
Tout à fait.
Ça, on voit ce, je pense à ça en voyant donc la salle verte, disons. Oui. Là, est-ce que c'est une préoccupation, parce que ça, l'art responsable, c'est quelque chose qui arrive. Donc, de dire, est-ce
pour,
qu'il faut,
pour moi, ça l'est. Ouais. Pour moi, ça l'est au point où, avec un groupe d'amis, à l'heure actuelle, je commande ma matière première en Italie. Et je suis certaine qu'il y a de la laine française dans ce que je reçois de l'Italie. Parce qu'en France, 90% ou 95% de la laine est brûlée. Donc, avec un groupe d'amis, on est dans un projet de montage de tiers lieux dans lequel, entre autres, je souhaiterais mettre en place un pôle textile qui, dans son périmètre de, par exemple, 50 km à la ronde, récupérerait toutes les matières textiles premières. Là, on part de Rhin-Loire, où je suis installée actuellement, où il y a 29 producteurs, par exemple, d'Ovin. Toute la laine est brûlée. Il y a des producteurs de chanvre, il y a des producteurs de lin. Aucune de ces fibres n'est utilisée pour le textile. Donc le but serait de récupérer toutes ces matières premières et de les transformer en matière, soit pour la création artistique, soit pour la création artisanale, en préservant et en faisant très attention à la sobriété hydrique par la filtration des eaux pluviales ou des eaux usées de l'atelier par des biofiltres et leur réintroduction en eau technique d'un espace atelier. Et puis tout ce que les teintures végétales, on est en train vraiment d'élaborer un projet dont un bout sera peut-être mis en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts de Monténégro, puis l'Institut de l'Industrie Textile de Croatie. On essaie de voir comment on pourrait faire un projet collaboratif.
Un pôle de création internationale.
On va essayer, on va viser ça. Moi, j'ai l'international facile, entre guillemets. Tu vois, avec l'ex-Yougoslavie, maintenant, t'as 6 pays. Hop! Ça, c'est fait. Plus la France, mais les problématiques, sauf en Italie du Nord, hein, les Italiens ont su vraiment sauvegarder cette industrie. Toute l'Italie du Nord, c'est l'Italie textile qui fournit toute l'autre couture européenne et même étrangère. Les autres pays européens ont juste assassiné l'industrie textile et on se retrouve avec les matières premières super précieuses qui sont brûlées et détruites alors qu'on les importe de la mérinos, on va l'importer de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, alors que mérinos, c'est le mouton mérinos, c'est une espèce endémique espagnole, et puis il y a du mérinos du Rambouillet qui est une espèce endémique française. Donc on aimerait bien commencer à mettre un terme à ces paradoxes qui participent de cette méga crise écologique dont nous sommes témoins et victimes.
Et alors là aussi il faut jouer et rire pour ne pas sombrer dans la tristesse face à cette idiotie internationale.
Oui, oui. Et puis, il faut faire les choses. Trouver la patate, s'entourer. De toute façon, si on veut avoir l'énergie pour, faut bien trouver le moyen d'être heureux, parce que les gens malheureux n'ont aucune énergie. Et puis, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il ne faut pas compter sur une conscience collective qui est inexistante. Il faut juste trouver deux ou trois personnes pertinentes avec lesquels on peut rire, avec lesquels on peut être joyeux et avec lesquels on peut faire des projets qui semblent intéressants et avancer.
Good.
Là, du milieu de l'espace Chabrier, je crois voir des petits bateaux en feutre.
Oui.
Alors, c'est où ils sont, où ces bateaux, sur quelle mer?
Ils sont sur la mer Adriatique, chez ma maman, qui habite à Bar, au Monténégro, à 200 mètres de la plage. Et son appartement donne sur le port. Et quand je suis chez elle, j'adore va entendre d'abord, puis regarder entrer les bateaux dans le port et sortir du port. Voilà.
Donc là, il y a une géographie du Monténégro.
Il y a une géographie du Monténégro, puis tu vois toutes les suspensions bleues qui vont se mélanger au sol. En fait, le titre de cette pièce-là, quand elle sera installée finalement, sera porter le nom d'un fleuve n'est pas une mince affaire. Alors, parce que Bojana, c'est le nom d'un fleuve au Monténégro, qui passe par le Monténégro et l'Albanie, du lac de Skadar, et qui va un merveilleux delta dans la mer Adriatique. Bojana, c'était aussi le nom d'un esprit qui habitait de chez les vieux Slaves, en fait, qui habitait les cours d'eau. Et quand une personne mourait, on faisait une couronne de fleurs, on la jetait dans le cours d'eau le plus proche et on demandait à Bojana d'aider cette âme dans cette traversée d'un état à un autre. Voilà.
Est-ce que Bojana va aider les hommes en psychiatrie alors?
Ben, Bojana, écoute, elle a pris un plaisir énorme à travailler en psychiatrie générale, avec des personnes qui ne seront jamais acceptées par cette société telle qu'elle est et qui ne les accommodera jamais des structures qui pourraient les accueillir et qui resteront enfermées pendant la plupart de leur vie dans un hôpital où elles n'ont pas forcément leur place parce qu'elles sont, je mets des gros guillemets, stabilisées, quoi que cela veuille bien dire. J'ai rencontré des êtres d'une sensibilité rare, d'une gentillesse rare, d'une solitude rare, une des personnes qui d'une hypersensibilité telle que le monde actuel, il aurait impossible à vivre. Je refuse de parler de folie depuis ce moment-là, parce que depuis cette expérience-là, en fait, j'étais partie. J'aime beaucoup Deleuze et Deleuze, à un moment donné, il dit que les gens n'ont de charme que par leur folie et qu'il faut un petit blablabla. Et donc, moi, au bout de 3 jours à la psychiatrie, je me dis, mais en fait, non. Déjà, on va arrêter de parler folie, on va arrêter de parler maladie. C'est pas eux qui sont malades, ils sont juste révélateurs de la maladie du monde extérieur qui met dans une espèce d'aquarium qui tourne en rond les personnes les plus fragiles à la place de les... et les stigmatise à la place de les préserver. Parce que j'ai eu des conversations, mais j'ai rencontré un monsieur par exemple qui s'y passionne pour le désert et qui a visité tous les déserts de la planète. Et pendant des heures, il pouvait raconter au moindre détail la couleur du sable, tel qu'on voit le ciel dans la nuit, toutes les étoiles, qu'il n'y a que dans le désert qu'on puisse prendre conscience de cet état sphérique de la planète. Et j'étais, mais ébahie face à ça. C'était un conteur né. Et j'étais en face, assise, en train de l'écouter. On faisait une pièce en feutre, forcément. Il a fait un désert. Et j'étais, tu vois, la question dans ma tête, c'était, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes en psychiatrie? D'autres personnes qui peuvent avoir des réactions très violentes face à la violence qu'ils perçoivent, des gros bruits, en fait, il suffirait d'un monde où on les protégerait de ces bruits-là ou de la violence qu'ils peuvent ressentir extrême dans l'agressivité du monde contemporain. Mais voilà, c'est l'hôpital psychiatrique et puis une chambre dans un hôpital psychiatrique. C'est un lit, une personne, une commode, un fauteuil et des toilettes avec une douche. Et puis on va y passer 10 ans. Pour certains, sans savoir si un jour on pourra sortir, parce qu'il n'y a pas de place, ou les places qui existent dans des structures qui peuvent accueillir des hypersensibles de ce genre-là, elles sont tellement chères qu'ils ne peuvent pas se les permettre. Pour moi, c'était une révélation, vraiment. Et pour moi, c'était une révélation aussi face à ma pratique, ce qu'elle peut représenter autant qu'outil. Parce que ces douceurs, puis, tu sais, le feutre, il est fabriqué par des gestes qui sont... On répète le même geste, autant de fois qu'il le faut, pour créer une pièce. Et cette répétition gestuelle... Elle induit systématiquement un espèce d'état méditatif où moi, je réfléchis à d'autres projets, mais qui, dans ce concours de circonstances, donnait place à une parole très aisée. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le temps de construire un documentaire autour de cette intervention parce que j'ai jamais eu des discours plus pertinents sur la stigmatisation des troubles psychiques qu'avec ces personnes qui en sont atteintes et qui sont enfermées.
Et comment tu travaillais, enfin tu interagissais avec les soignants alors? Parce que la psychiatrie, c'est les personnes qui y sont, mais il y a aussi tous les l'équipe soignante.
Alors, moi, j'interagissais surtout, j'étais accompagnée par l'équipe des ergothérapeutes. Il y en avait toujours un sur deux qui était en atelier avec moi. Et je mangeais que midi avec l'équipe des soignants. Ils y passaient des fois, les infirmiers, les infirmières. On discutait un peu, ils discutaient avec les patients. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a vraiment une espèce de refus tacite en humanité de l'équipe de soignants par rapport à l'équipe entre guillemets de soignés, parce que les personnes hospitalisées. Ça, je l'entends dans la mesure où elles sont conscientes du rejet qu'elles subissent. Et l'équipe de soignants est la plus facile à faire culpabiliser. Puisque ce sont les premiers au front dans le contact. Ce sont ceux qui attribuent les médicaments, qui sont obligés de forcer les personnes de prendre les médicaments quand ils les refusent, etc., etc. Alors que les ergothérapeutes, c'est encore autre chose. Les ergothérapeutes servent à leur amener les clés pour réintégrer une sortie ou voilà, les clés pour une autonomie supérieure.
Je pense après sur le rapport au dehors, en fait, à l'extérieur. Parce que toi, tu es une artiste qui vient de dehors. Oui. Toi, tu leur donnes un support, le monsieur qui raconte le désert, qui fait un désert en feutre. En fait, ça crée un autre espace-temps. Qu'est-ce que tu en penses?
C'était des espaces-temps complètement... C'était une première expérience pour tout le monde. C'est la première fois, parce qu'ils ont des art-thérapeutes. C'est pour la première fois qu'ils accueillaient quelqu'un complètement d'extérieur. Ils n'avaient pas de salle prévue. On s'est installé dans une salle télé. Et cette salle télé, au bout d'une semaine, était devenue un espace rempli de création. C'était pas une obligation de venir. Les gens venaient des fois que pour dessiner, finalement. Ou que pour boire un café. On avait transformé ça assez vite en un espace convivial. Et on était tous un peu hors temps. Les soignants, des fois, quand ils n'arrivaient pas à trouver les patients, venaient les chercher là. Il y avait même des gens qui ne voulaient pas forcément faire de là, qui voulaient regarder un peu la télé, mais qui finalement se mettaient à faire avec nous pour essayer. Et puis les conversations continuaient, les patients faisaient des connaissances entre eux aussi. C'était un autre fonctionnement. C'était un espace d'un fonctionnement différent par rapport au fonctionnement au quotidien hospitalier.
Mais qu'est-ce qu'elles deviennent, les œuvres, après ?
Alors, les œuvres, après, elles sont parties en exposition à la chapelle de l'Hôtel Dieu. C'est quelque chose dont je suis particulièrement fière, parce que pendant toute cette période d'intervention, on disait, mais on va faire une expo, on va faire une expo, on va faire une expo. Et j'étais là, mais en fait, vous êtes des artistes. Chaque artiste visite le lieu, il va exposer. Alors, comment fait-on pour que vous visitiez les lieux qu'on va exposer, pour qu'on réfléchisse à comment on installe les œuvres aussi? Et puis, on a négocié une sortie. Puis on est sorti. Puis on est allé voir la chapelle de l'Hôtel Dieu, où il y avait une exposition déjà qu'ils ont trouvée affreuse. Ça y est, ça avait commencé à ce moment-là. Ça, c'était super drôle. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est beaucoup mieux. Ok, allez, on va boire un coup sur une terrasse. Ça, c'était aussi. On va pas boire d'alcool, personnel hospitalier, calmez-vous. On va boire des jus de fruits. On est juste des gens qui ont boire un coup et discuter de l'exposition qu'on va faire. Et ça, c'était génial. Ça a fait tout balancer. Dans le sens positif. Parce que je pense que cette sortie, elle était indispensable. Qu'on se pose enfin en humain à l'extérieur de cet hôpital, qu'on fasse une chose que les gens non hospitalisés font de toute façon, sortir boire un coup sur une terrasse, alors que c'est beau, et parler de ce qu'on allait faire ensemble. Et la première banderole de manif, elle est née à ce moment-là. On avait fait une grande ligne bleue de plusieurs mètres. Une patiente voulait faire un alinéa. Et cette espèce de ligne bleue s'est transformée en donc banderole de manif, parce qu'après ça, ils ont décidé de revendiquer leur besoin d'être entendus et intégrés par une société qui les rejette. Et du coup, ils ont fait la liste de leur pathologie, entre guillemets, la liste de symptômes de leurs troubles psychiques, la liste des médicaments qu'ils prennent pour guérir les symptômes et les effets secondaires des médicaments. Et là, on s'est retrouvé entre la liste des symptômes de leurs troubles et les effets secondaires des médicaments. En fait, ils étaient bizarrement très semblables. Et c'est devenu une banderole de manif, mais juste génial. Et ils l'ont accroché avec grande fierté. Du coup, toutes leurs petites, leurs pièces, on les a assemblées en un format immense qui allait être la couverture. Et on a reproduit une chambre d'hôpital au beau milieu de la chapelle. On a installé sur le lit d'hôpital. Et là, je suis reconnaissante à l'équipe hospitalière, mais alors infiniment, parce qu'ils ont vraiment œuvré à ce que tout se passe comme les patients l'auraient aimé, c'est-à-dire trouver un lit d'hôpital, trouver des meubles à l'hôpital qui peuvent être amenés jusqu'au centre-ville, être installés à la chapelle, le cirque. Et puis, comme je leur avais fait feutrer des balles de tennis aussi, c'est un exercice qui s'est montré très apaisant, parce que comme sur la voûte plantaire, sur les mains, nous avons plein de terminaisons nerveuses, et le fait d'appuyer sur une balle et de la faire rouler, en fait, ça détend aussi bien les articulations de la main que l'être entier. Et avec ces balles-là, on avait fait une constellation qu'on a suspendue au plafond de la chapelle. Et à la fin, c'était juste magnifique. Ils étaient très heureux, puis j'étais très heureuse aussi. Jamais une intervention m'a apporté tellement de choses. J'espère que je leur ai apporté beaucoup de choses aussi. Et j'espère pouvoir renouveler ce type d'expérience, parce que voilà, les matières s'y prêtent énormément. J'aimerais aussi beaucoup travailler avec les femmes en prison. Mais ça, c'est pour une autre fois.
Parce que là, cette exposition, elle a duré combien de temps? Elle est en cours, peut-être?
Oh non, je ne m'en souviens plus. Tu sais, moi, je suis une toute petite tête pour les chiffres, les dates. Et en tout cas, c'était l'année dernière.
Ma question, c'est aussi de dire comment c'est présenté au public. Toi, est-ce que c'est de l'art de fou, c'est entre guillemets? C'est l'art des patients, c'est des artistes?
Alors, l'hôpital psychiatrique dans lequel j'ai travaillé, celui qui est de Dreux, il a une collaboration avec l'ARS, Agence Régionale de la Santé, à travers laquelle il travaille en collaboration, en partenariat avec le musée de l'histoire de Dreux, où certains patients vont une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, pratiquer les arts plastiques. Ça s'appelle le premier pas. Et puis, donc, l'année où je suis intervenue à l'hôpital, ils avaient décidé de tester et d'inviter une artiste au sein de l'établissement. Et du coup, en fait, tous les ans, les travaux faits par les patients sont exposés à la chapelle de l'Hôtel Dieu. Cette exposition annuelle, elle est un peu institutionnalisée. Cette maison, puis cette année-là, comme on a mis tout ça en commun, voilà, Mais c'est la première fois où ils avaient exposé des volumes et c'était super intéressant de travailler aussi sur le volume dans un espace donné.
En tout cas, peut-être d'autres futurs projets en psychiatrie.
Ah, j'adorerais.
Alors là, si on poursuit, disons, si notre regard suit ce que tu as prévu pour les regards des visiteurs, qu'on arrive là dans les tiny house, dans les cabanes en feutre. Donc là, c'est du feutre plat, si on peut dire, et c'est orné de flammes en feutre rouge.
Oui.
Donc là, c'est aussi le côté architecture.
Oui. Architecture pliable, parce que c'était assez rigolo quand je suis arrivée avec l'expo, tu vois, tout ça est plié en quatre, donc on va se retrouver ou en six ou en huit, peu importe. Et il était assez difficile d'imaginer que je suis arrivée avec tout ça emballé, que les quatre petits tas allaient devenir ce type de volume. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est une architecture. Tu vois, ce sont des espèces d'interprétations de l'attente aussi. D'une architecture qui se plie et qui se déplie et qui est transportable. Une maison à soi, c'est une maison en soi.
Là, il y a une cabane, une maison qui est un cordon ombilical.
Oui.
Pourquoi là? Je crois que tu avais fait une œuvre aussi en format peut-être plus d'œuf, qui avait aussi un cordon.
Oui, 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 ça c'est une réflexion qui est toujours à ce patrimoine génétique commun, ou matrimoine génétique commun d'ailleurs. Et qui va jusqu'à la cellule en fait. Moi, quand je me pose la question sur ce génétique commune, je pense aussi à la façon dont on s'en fait à l'intérieur du corps. Et on est aussi des architectures qui tiennent sur quelque chose. Et qui donne d'autres, qui ont le potentiel de produire d'autres architectures de la même tenue. Je ne sais pas comment te dire. Pour moi, le cordon ombilical, il est le symbole d'un lien entre tout ça. D'un lien universel entre le vivant et puis... Ce qui nous est commun, ce qui nous relie, c'est juste une question de symbole.
Après, sur l'idée de la matière du feutre, c'est vrai que là, peut-être parce que le feutre est rouge vif, il y a un côté très, très chair, en fait, très, très organique. Bon, c'est l'effet peut-être moins vrai avec du feutre bleu ou vert, mais là, c'est vrai que c'est...
Oui, ça fait cette allusion-là
à l'intérieur.
À l'intérieur, oui. Parce que, voilà... La maison en soi est la seule vraie maison que nous avons, en fait.
Là, donc là, tu es en pleine installation. Je t'ai coupé dans ton travail d'installation, d'exposition, au passage Chabrier. Donc là, le vernissage, il est dans combien de temps?
Le vernissage est donc dans une semaine, pile poil, donc le 11 septembre, à partir de 18h30. Et l'exposition, du coup, elle dure du 12 septembre au 22 novembre.
Voilà, donc là, et je crois que c'est une période de grosse activité pour toi. Donc il y a l'installation ici, Passage Chabrier, il y a aussi Archipel, je crois.
Il y a Archipel, et entre l'Archipel, donc pour lequel j'ouvre les portes le 25 et le 26 octobre, je file en Monténégro pour une autre exposition. Donc ça va être épique parce que j'amène toutes les matières d'ici. Je ne sais pas encore dans quelle mesure je vais réussir à m'entendre avec la compagnie aérienne. Mais on va y arriver. Dans le pire des cas, je vais tout envoyer par la poste. C'est une grosse exposition internationale à Cetinje, dans l'ancienne cité royale. Cetinje étant la capitale culturelle du Monténégro. Donc je fais une installation là-bas. J'espère avoir 2-3 jours de pause. Je reviens le 11 octobre, puisque le vernissage est le 4, donc ma pause ça va être cette semaine. Là, pour attaquer dès le 13 octobre les interventions pédagogiques dans les écoles maternelles de Saint-Pierre-des-Corps par rapport à l'exposition. On va faire des tableaux communs en feutre ou des fleuves, ou on verra bien. Mais en tout cas, nous allons fabriquer du feutre tous ensemble. Et puis après, c'est l'archipel. D'ailleurs, hier, c'était la conférence des presses et j'ai eu à dire quelques mots. L'ouverture de l'atelier à Dreux. Depuis moins d'un an, je suis drouaise. Et ça me fait tout drôle d'être de nouveau à Saint-Pierre-des-Corps, où j'ai pratiqué à la morinerie depuis des années. Mais voilà.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir partir aussi.
Il faut savoir partir pour rencontrer d'autres gens. Ça ne change, pour élargir son horizon, ça ne change rien. En amour, ça ne change rien aux attaches,
Mais je pense qu'on est tous on est obligé d'avancer. Je sais pas, faut s'enrichir. On ne peut pas arrêter d'apprendre et de rencontrer, et de connaître et de découvrir. On est mort sinon. Et du coup, voilà, fallait partir à un moment donné. J'ai eu l'occasion qui s'est présentée et je me suis décidée pour Dreux parce que lors de l'exposition au Centre d'art contemporain, l'Arsenal, qui est là-bas, j'étais invitée à une exposition pareille internationale sur les arts textiles. Et j'ai rencontré l'équipe du Centre d'art, qui est une équipe pareille, formidable. On est accueillis comme à la maison. Et puis nous avons vu des atomes crochus qui sont manifestés assez vite. Du coup, on a commencé à faire des projets ensemble. Puis ces projets en commun ont abouti, voilà, à cette résidence à l'hôpital psychiatrique. Puis à la fabrication d'un autre projet de tiers-lieu et de pôle textile qui se dessine. Et à un moment donné, pour que ça puisse avancer concrètement, fallait bouger. Puis c'était le bon moment. Puis j'ai bougé.
Merci Boyana.
Merci beaucoup à toi.
Si
Merci.
donc on vient ici voir ton travail, Passage Chabrier, et est-ce qu'on te trouve sur les internets?
Alors, on me trouve sur Instagram et on me trouve sur Facebook. J'ai toujours pas. Je trouve jamais le temps pour m'occuper d'un site internet, mais il va falloir que ça vienne. Je suis très mauvaise encore.
Mais bon, en tout cas, sur Instagram, on trouve le compte qui s'appelle comment
Boyana-du-bas, Nick Civic-du-bas, artiste.
Voilà.
Voilà.
On va le mettre sur le podcast de cet enregistrement. Merci à toi pour le temps accordé. Allez, quel sera ton mot de la fin?
Soyez joyeux. Et imposez-vous de rire au moins 2 minutes par jour. Merci beaucoup.
C'est un beau programme. Votez Boyana.